7. Le mardi après-midi, j'entrepris de faucher les hautes herbes, d'abord devant la maison, puis derrière. Après une heure environ, je regardais mes mains toutes rouges et compris que des cloques n'allaient pas tarder à apparaître si je ne faisais pas attention. Je pris Radar en laisse pour marcher jusque chez moi, où je dénichais dans le garage une paire de gants de bricolage de mon père. On remonta la colline, sans se presser, pour ménager les hanches de la chienne. Je m'attaquais alors à l'herbe sur le côté de la maison, pendant que Radar ronflait, après quoi je lui donnais à manger. J'avais fini ma journée. Papa fit cuire des hamburgers au barbecue et j'en mangeais 3, plus une part de tourte aux cerises en dessert. Papa me conduisit à l'hôpital et m'attendit en bas en lisant des rapports pendant que je montais voir M. Bodich. Lui aussi avait eu un burger au dîner, avec du gratin de macaroni, mais il y avait à peine touché. Évidemment, il n'avait pas manié une faux pendant 2 heures et même s'il s'efforça de paraître aimable en regardant de nouvelles photos de Radar, plus une de la faux et une autre du jardin de devant à moitié tondue, je voyais bien qu'il souffrait terriblement. Il ne cessait d'appuyer sur le bouton de la pompe à morphine. La 3e fois, elle émit un bourdonnement grave, comme dans les jeux télé quand le candidat donne une mauvaise réponse.
« Ah, saloperie, j'ai atteint la dose autorisée. » Pendant 1 heure. Tu ferais mieux de me laisser, Charlie. Avant, je te crie dessus uniquement parce que j'ai mal. Reviens vendredi. Non, samedi. Peut-être que je me sentirai mieux.
Ils vous ont dit quand vous pourriez sortir?
Dimanche, peut-être. Une dame est venue me voir pour me dire qu'elle voulait m'aider à établir un...
Il leva ses grandes mains, couvertes de bleu à cause des perfusions, pour mimer des guillemets.
Programme de convalescence. Je l'ai envoyé chier. Enfin, pas dans ces termes. J'essaie d'être un patient modèle, mais c'est difficile. Il n'y a pas que la douleur. Il y a aussi...
Il esquissa un cercle, mollement, et ses bras retombèrent sur le couvre-lit. Trop de monde, dis-je. Vous n'êtes pas habitué.
Tu as compris. Dieu soit loué. Enfin, quelqu'un qui comprend. Et trop de bruit aussi. Avant de s'en aller, cette femme, elle a un nom du style Ravenegger, m'a demandé si j'avais un lit au rez-de-chaussée chez moi. Non, je lui ai dit, mais j'ai un canapé qui se déplie. Même s'il n'a pas servi de lit depuis longtemps, s'il a servi un jour, je l'ai acheté parce qu'il était soldé.
Je préparerai, si vous me dites où sont les draps.
Tu sais faire ça?
Pour le fils d'un veuf qui avait été alcoolique au dernier degré, la réponse était oui. Je savais également faire la lessive et les courses. J'avais été un bon petit codépendant. Oui?
Dans la penderie, au premier étage. T'es déjà monté là-haut?
Je secouais la tête.
Eh bien, profites-en. C'est en face de ma chambre. Merci.
De rien. Et la prochaine fois que cette femme viendra vous voir, dites-lui que votre programme de convalescence, c'est moi. Je me levais. Bon, je vous laisse vous reposer. Je me dirigeais vers la porte. Je l'entendis prononcer mon nom, alors je me retournai.
Tu es ce qui m'est arrivé de mieux depuis longtemps.
Et puis, comme s'il se parlait à lui-même,
je vais devoir te faire confiance. Je n'ai pas trop le choix.
Je répétais ces paroles à mon père. J'étais ce qui lui était arrivé de mieux. Mais mon instinct me conseillait de ne pas évoquer la remarque sur la confiance. Il me serra contre lui, d'un bras puissant, m'embrassa sur la joue et déclara qu'il était fier de moi. Une bonne journée. 8. Le jeudi, je m'obligeais à frapper de nouveau à la porte du cabanon. Je n'aimais vraiment pas cette petite construction. Pas de réponse. Pas de grattement. Je pensais que j'avais imaginé ces curieux gazouillis. Mais dans ce cas, Radar les avait imaginés lui aussi, et à mon avis, les chiens n'étaient pas très doués, question imagination. Peut-être qu'elle avait réagi à ma réaction, c'est-à-dire à ma peur et à ma répulsion quasi-instinctive. Le vendredi, je transportais notre tondeuse jusqu'en haut de la rue pour m'occuper du jardin à moitié domestiqué maintenant. J'espérais le rendre relativement attrayant avant la fin du week-end. La semaine d'après, c'était les vacances de printemps, et j'avais l'intention de passer pas mal de temps au 1 sycamore. Je nettoierai les fenêtres, à l'intérieur et à l'extérieur, après quoi je m'attaquerai à la clôture pour essayer de la redresser. Je me disais que ça remonterait le moral à M. Bodich s'il voyait ça. Je tondais l'herbe du côté de Pine Street, Radar s'était réfugié dans la maison, loin du rugissement de la machine, quand mon téléphone vibra dans ma poche. J'arrêtai la tondeuse et vis Arcadia Hospital s'afficher sur l'écran. Mon ventre se noua. Quelqu'un allait m'annoncer que l'état de M. Bodich s'était dégradé. Ou pire, qu'il était décédé. L'appel concernait effectivement M. Bodich, mais rien de grave. Une certaine Madame Ravensburger voulait savoir si je pouvais venir le lendemain matin à 9h pour parler de la convalescence et du suivi médical de M. Bodich. « Oui, » dis-je. Elle me demanda alors si je pouvais venir accompagné d'un parent ou d'un tuteur. « Probablement, » répondis-je.
« J'ai vu ta photo dans le journal, avec son formidable chien. Monsieur Bodich te doit une fière chandelle. »
Elle parlait de l'article du Sun, en toute logique. Mais Radar et moi étions apparus ailleurs. Ou peut-être devrais-je dire, partout. Papa rentra tard, comme souvent le vendredi, avec un exemplaire du Chicago Tribune ouvert à la page 2, où le Trib publiait chaque jour un encadré intitulé « Et aussi ». Qui rassemblait des nouvelles brèves plus joyeuses que les infos de la première page. La photo de Radar et moi était surmontée de ce gros titre. La chienne et l'adolescent, les deux héros. Je n'étais pas vraiment choqué de me voir dans le Trib, plutôt surpris. Nous vivons dans un monde assez agréable en dépit de toutes les preuves du contraire. Et chaque jour, des milliers, voire des millions de personnes accomplissent de bonnes actions. Un gamin qui vient en aide à un vieux bonhomme qui s'est cassé la jambe en tombant d'une échelle, cela n'avait rien d'extraordinaire, mais c'était la photo qui faisait tout. On voyait Radar en train de me lécher la joue, alors que je la prenais par le cou en éclatant de rire. Et j'étais plutôt pas mal, avouons-le. Je me demandais si Gina Pascarelli, la fille de mes rêves, l'avait vue.
« Tu vois ça ?» demanda papa en tapotant du doigt la légende. « AP, Associated Press. » Ça signifie que cette photo est certainement parue dans 500 ou 600 journaux aujourd'hui, d'une côte à l'autre, sans parler d'Internet. Andy Warhol a dit que tout le monde en Amérique finirait par connaître son quart d'heure de gloire, eh bien, je crois que c'est ton tour. Tu veux qu'on aille dîner au Bingo's pour fêter ça?
Et comment? Et pendant que je savourais mes travers de bœuf, je demandais à papa s'il voulait bien m'accompagner à l'hôpital le lendemain pour discuter avec une Madame Ravensburger. « Avec plaisir, » répondit-il. 9. On se retrouva donc dans le bureau de Madame Ravensburger. Elle était accompagnée d'une certaine Melissa Wilcox, une grande fille athlétique dont les cheveux blonds étaient attachés en une courte queue de cheval austère. Elle serait la kinésithérapeute de Monsieur Bodich. Ce fut essentiellement elle qui parla, en consultant parfois un petit carnet pour ne rien oublier. Elle annonça que, après une discussion avec M. Bodich, celui-ci avait accepté qu'elle se rende à son domicile 2 fois par semaine pour faire sa rééducation afin de le remettre sur pied, à l'aide de béquilles d'abord, puis avec un déambulateur. Par ailleurs, elle prendrait ses constantes pour s'assurer qu'il progressait. Elle examinerait également ce qu'elle appelait l'entretien des broches.
« Ça, ce sera ton domaine, Charlie. »
Je lui demandais ce que ça voulait dire et elle m'expliqua que les broches fixées dans sa jambe devaient être désinfectées régulièrement. Une opération douloureuse, précisa-t-elle, mais moins qu'une infection pouvant provoquer une gangrène.
« Je voulais venir 4 jours par semaine, mais il a refusé, » ajouta Melissa. « Il sait très bien ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. »
« Ne m'en parlez pas, » songeai-je.
« Au début, il aura besoin d'énormément d'aide, Charlie. Et il dit qu'il peut compter sur toi. »«
D'après lui, » intervint Madame Ravensburger, « tu es son programme de convalescence. »
Elle s'adressait à moi, mais regardait mon père comme pour l'inciter à protester. En vain. Mélissa tourna une page de son carnet, d'un violet éclatant et décoré d'un tigre rugissant.
Il dit qu'il y a une salle de bain au rez-de-chaussée.
Oui. Je ne pris pas la peine de préciser qu'elle était minuscule. Elle s'en apercevrait lors de sa première visite.
C'est une bonne chose, dit-elle, car il ne pourra pas monter l'escalier avant quelque temps.
Mais ça reviendra.
Oui, bien sûr. S'il travaille dur, il est âgé. Il affirme ne pas connaître son âge exact, soit dit en passant, mais plutôt en forme. Il ne fume pas, il dit qu'il ne boit pas, il n'a pas de surcharge pondérale.
C'est important, souligna papa.
Oh, que oui! L'obésité est un énorme problème, surtout chez les personnes âgées. On a prévu de le faire sortir lundi. Mais avant cela, il faudra installer des barres d'appui dans la salle de bain. Tu peux t'en charger ce week-end, Charlie? Sinon, il faudra attendre mardi pour le faire sortir.
Je m'en occupe. Je voyais un avenir immédiat fait de tutos sur YouTube.
Il aura besoin également d'un urinal pour la nuit et d'un bassin pour les urgences. Ça ne te pose pas de problème?
Non, répondis-je, et c'était la vérité. J'avais nettoyé du vomi plus d'une fois. Vider dans les toilettes le caca d'un bassin, ce serait peut-être un peu moins dégradant. Mélissa referma son carnet.
Il y a mille autres choses encore. Des petites choses, principalement. Ce fascicule devrait t'aider. Jette-y un coup d'œil.
Elle sortit un petit livret de la poche arrière de son jean. Les soins à domicile pour les nuls, en quelque sorte. Je promis de le lire et le glissai dans ma poche.
J'aurai une idée plus précise de ses besoins quand je me serai rendu sur place, reprit Mélissa. Je pensais y faire un saut dès cet après-midi, mais il a été catégorique. Il ne veut pas que j'entre chez lui en son absence.
Oui, M. Boditch pouvait se montrer très catégorique. Je l'avais découvert très vite.
Tu es vraiment certain de vouloir assumer tout ça, Charlie?
Me demanda Mme Ravensburger. Cette fois, elle n'interrogea pas mon père du regard d'abord.
Oui, même si ça signifie passer 3 ou 4 nuits avec lui dans les premiers temps, ajouta Mélissa. J'ai essayé d'évoquer l'éventualité d'un centre de rééducation. Il y en a un très bien, baptisé Riverview, et il reste des places. Mais il ne veut même pas en entendre parler. Il veut rentrer chez lui, un point c'est tout.
Je resterai avec lui, pas de problème, dis-je. Même si la perspective de dormir au premier étage, dans une chambre que je n'avais jamais vue, me faisait bizarre. C'est les vacances scolaires. Madame Ravensburger se tourna alors vers mon père.
Ces dispositions vous conviennent, monsieur Reed?
J'attendis sa réponse, sans trop savoir ce qu'il allait dire, mais il assura.
Oh, je m'inquiète un peu, avoua-t-il. Et c'est naturel, sans doute, mais Charlie est un garçon responsable. Par ailleurs, Monsieur Boditch semble avoir établi un lien avec lui, et il n'a personne d'autre.
J'intervins. Mademoiselle Wilcox, au sujet de la maison, elle sourit.
Appelle-moi Mélissa, s'il te plaît. Après tout, on va être collègues.
C'était plus facile pour moi de l'appeler Mélissa que d'appeler Monsieur Boditch Howard, car il y avait moins de différence d'âge.
Au sujet de la maison, il ne faut pas vous vexer. Ce n'est pas qu'il a peur que vous voliez des trucs, mais il est... Je ne savais pas comment terminer ma phrase. Heureusement, papa vola à mon secours.
Il aime son intimité.
Oui, voilà, dis-je. Et il ne faut pas lui en vouloir s'il est un peu grognon, car...
Mélissa n'attendit pas mon explication.
Crois-moi, dit-elle, si j'avais un fixateur externe planté dans la jambe, je serais grognon, moi aussi.
Vous savez s'il a une assurance ?
Demanda papa à Madame Ravensburger. Cette dernière échangea un regard avec Mélissa Wilcox et répondit
« Ça me gêne d'évoquer la situation financière d'un patient. Sachez simplement que, d'après l'intendant de l'hôpital, il a l'intention d'assumer personnellement tous les frais. »
« Ah !» fit papa comme si cela expliquait tout. Mais son visage disait que ça n'expliquait rien du tout. Il se leva et serra la main de Madame Ravensburger. Alors, j'en fis autant. Mélissa nous suivit dans le couloir. Elle semblait glisser sur le sol dans ses baskets blanches éclatantes. « Elle est Sioux ?» demandai-je. Elle parut surprise.
« Comment tu le sais ?»«
Le carnet. »« Basket ?» Elle sourit.
« Et volait. »
Avec sa taille, elle devait avoir un sacré smash.